On va parler des tests pour la prochaine heure de cette émission. Vous avez peut-être vu, là, il y a une recrudescence du virus, du coronavirus là, en Chine, en Inde, entre autres. Au Brésil, ça continue également sa progression. Et à tel point qu'en Chine, entre autres à Pékin, on dit que c'est assez grave. On a même jugé que la situation épidémique était même extrêmement grave, ce qui fait craindre une nouvelle vague de contamination. Il y a un plus grand nombre de gens qui ont été contaminés. Bref, ça revient à cette deuxième vague dont on parle depuis plusieurs jours. Fait craindre le pire à de plus en plus de santé publique un peu partout sur la planète. Chez nous, pourtant, quand on regarde un peu ce qui se passe, puis on va se baser sur le nombre de gens qui se font tester là, pour le bienfait de notre discussion, ben, il y a de nombreux Québécois qui, aujourd'hui, ne se font plus tester du tout pour toutes sortes de raisons. Puis vous me direz, parce que je vais vous poser la question, trouvez-vous que c'est une bonne idée de se faire tester ou d'après vous, ça ne sert pas vraiment à grand-chose à partir du moment où on a quasiment déconfiné à peu près tout, là. Il ne reste plus grand-chose de confiné. Trouvez-vous que ça vaut la peine de se faire tester pour la COVID-19? Et après, la grande question que tout le monde se brosse, bien sûr, c'est quand on veut vraiment le savoir, là, si on est immunisé parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils l'ont déjà contracté, qui ont été symptomatiques ou qu'ils ont eu très peu de symptômes, mais qui sont finalement immunisés. Comment le savoir? Ben, il y a le test de sang. Puis ça, ce qu'on regarde, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus de gens le font, ce test sérologique, et non pas le test dans des centres de dépistage publics. Parce qu'on est très loin de l'objectif du gouvernement de 14 000 tests par jour. Dimanche, je vous fais le petit décompte, on a eu 5 241 prélèvements. Lundi, c'était 7 160. C'est la moitié moins, donc, que les 14 000 que le gouvernement et en particulier le docteur Horacio Arruda voulait. Vous vous souvenez ce qu'il nous a dit, le docteur Arruda, hein?
Effectivement, tester. On va continuer à tester pour là où il y a des éclosions, mais on va avoir des approches plus proactives de tests pour documenter ce qui se passe vraiment en termes de transmission communautaire.
Alors voilà, tester. On a beaucoup entendu ces trois mots parce qu'on nous disait c'est le nerf de la guerre, puis surtout qu'on avait compris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, on parlait de 40 % moins de gens asymptomatiques, donc tu n'as pas de symptômes, mais tu es porteur. Au moment où on ne disait pas forcément aux gens non plus, ça a pris du temps avant qu'on recommande le masque. Et là, aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui sortent. On apprend, entre autres, qu'il y a des médecins qui préfèrent diagnostiquer la COVID grâce à des tests sérologiques, donc de sang, pour trouver les anticorps dans le sang plutôt que le virus. Fait que, bref, on entend plein de choses, puis je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Alors, nous aurons deux spécialistes au cours de la prochaine heure. Je commence tout de suite avec nos numéros de téléphone pour vous donner l'occasion de réagir. De l'extérieur de la grande région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. À Montréal, c'est le 514-790-9850. Je vous encourage, bien sûr, un peu partout où que vous soyez sur le réseau, à nous appeler là-dessus, à poser vos questions. Notre premier invité est microbiologiste, président d'Eurofin Environnement, Marc Hamilton. Bonjour, Monsieur Hamilton.
Oui, bonjour.
Sur la question là, que finalement, il y a deux fois moins de gens qui se font tester que les 14 000 tests par jour qu'on souhaitait, là, qui était l'objectif du gouvernement, vous avez quoi à dire là-dessus, Monsieur Hamilton? Êtes-vous surpris?
Ben, moi, je pense que oui, je suis surpris parce qu'à quelque part, les gens ont comme pris confiance que le COVID est comme, entre guillemets, plus de notre quotidien au Québec. On sait que les statistiques ont baissé, il y a moins de mortalité et ça crée un sentiment, si on veut, de sécurité aux gens qui fait que pour eux, ils se disent, ben, écoutez, pourquoi j'irais me faire tester? J'en ai pas dans mon entourage. Et cet engouement-là est comme parti. Ce qui fait que présentement, même si on a 14 000 tests disponibles en termes de capacité, les gens ne se présentent pas dans les centres de prélèvement. Et c'est ce qui fait qu'on est en bas de cette statistique-là, chose qui ne devrait pas. On a vendu, on devrait continuer à tester, comme le docteur Arruda vient de le mentionner.
Donc, vous dites on a créé un sentiment de sécurité. C'est un sentiment de fausse sécurité, dans le fond, ce que vous nous dites, Marc Hamilton.
Ben, écoutez, c'est sûr qu'on le voit, là, l'été, puis on l'avait prédit, hein, que durant l'été, l'écosystème du coronavirus, à cause de la température, des chaleurs, on sait que les études prouvent que quand on est toujours, du moins au Québec, une température 15 degrés le jour, le soir, constamment, les rayons ultraviolets, le virus reste moins actif sur des surfaces de contact et fragilisé par les rayons ultraviolets. Les gens vont dehors un petit peu plus. Donc, c'est ce qui fait que le virus est moins agressif durant l'été, de sorte qu'on a, entre guillemets, un petit break. Donc, on le sait que cet automne, lorsque les gens vont se confiner davantage, donc vont aller jouer moins dehors, le soleil va se coucher plus tôt, les températures vont être un petit peu plus froides. Donc, les conditions de l'écosystème qui vont faire, les modifications de l'écosystème vont faire en sorte que le virus pourrait redevenir plus fulgurant et créer une deuxième vague. Mais entre-temps, ce qu'il faut continuer de faire, et c'est ça qui fait la différence maintenant par rapport à ce qu'on l'a connu au début de l'épidémie, c'est qu'on est en mesure de tester davantage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de tester, l'avantage, c'est qu'on veut identifier les foyers de contamination avant qu'ils éclosent. Donc, d'aller chercher les personnes asymptomatiques. Puis comme vous savez, je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines, 44 à 45 % des gens qui attrapent le virus l'attrapent d'une personne qui est asymptomatique, donc ne le sait même pas. Et c'est ce genre de personnes-là qu'il faut identifier, qu'il faut diagnostiquer avant que les foyers repartent.
Combien de pourcentage, si vous voulez bien répéter le pourcentage?
C'est entre 40 et 45 des gens qui attrapent le virus présentement l'attrape de personnes asymptomatiques, donc des gens qui ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus et qui n'auront peu ou pas de symptômes. Et c'est pour ça que le ministre, le docteur Arruda, veut faire des tests à l'aveugle à travers toute la population pour tenter d'identifier s'il y a des asymptomatiques dans la population. Et dès qu'on capterait une personne asymptomatique, c'est là qu'on dit wow, « OK, t'es porteur du virus, toi, on va te mettre tout de suite à l'écart pour que tu t'en éviter que tu t'en ailles contaminer les gens. »
Mais c'est peut-être pour ça que le monde y va pas, qu'ils en pensaient, Mark Hamilton. C'est peut-être peut-être que le fait de dire « Ouais, mais si j'y vais puis que je suis positif, on va mettre 14 jours au rencard, je pense attendre. » Personne veut ça. Là. J'ai l'impression que même si on pense à son prochain, les gens vont se dire « Regarde, je vais m'auto-réguler moi-même, mais j'ai pas besoin d'un test pour me le dire. »
Oui, mais il faut le faire. C'est pas une question que je m'auto-médicamente ou je m'auto-diagnostique. Il faut absolument le faire parce que le problème, c'est que si vous vivez très bien avec le COVID, de sorte que vous avez peu ou pas de symptômes, le problème, c'est que vous allez contaminer bien des gens autour de vous qui, eux, on ne sait pas comment le virus va réagir entre eux. Donc, vous devenez comme une bombe atomique, entre guillemets, pour les autres. Et c'est ça qu'il faut éviter. Puis c'est pour ça que le tester dans la population des gens qui n'ont pas de symptômes, c'est le but, c'est de découvrir les asymptomatiques. On comprend qu'à ce temps-ci de l'année, les gens sont moins portés, les statistiques disent, il y a moins de morts, on déconfine beaucoup. Donc, les gens disent, c'est sûr qu'il n'y a pas de virus dans l'air, on déconfine tout. Mais le problème, c'est combien de temps ça va durer. Et c'est ça qu'on ne sait pas, la variante là, qu'on a de dire, on a ce break-là jusqu'à quand. Mais il faut toujours continuer de travailler dans la prévention pour que quand on va arriver dans une période plus à risque, cet automne, qu'on ait déjà créer une routine, puis qu'on ait déjà être prêt à éviter cette deuxième vague-là en contrôlant les personnes asymptomatiques.
Mais est-ce que, considérant là, que 90 % des décès sont dans les CHSLD, considérant que, visiblement, il doit y avoir encore, parce que j'ai des auditeurs qui m'en ont parlé en première heure d'émission, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit là-dessus, des travailleurs de CHSLD qui me confirment qu'ils, encore aujourd'hui, partent d'un CHSLD, sont en équipe volante, sont envoyés dans un autre CHSLD. Est-ce qu'on ne devrait pas s'assurer d'abord, avant de tester toute la population, là, que ceux qui travaillent auprès des populations qui sont à risque de mourir, c'est-à-dire les personnes âgées en CHSLD, que ces gens-là, ces travailleurs-là, soient priorisés dans les tests? C'est eux, dans le fond. Là. Regardez, je viens d'avoir, ça vient de sortir, là, le bilan dernière heure COVID-19, 42 nouveaux décès au Québec, pour un total de 5340. Il y a 100 nouveaux cas confirmés, dépistés. Et 42 nouveaux décès, là, probablement, là, ils ne font jamais la différence du lieu. Là, on ne sait pas où, mais si la tendance se maintient, ça devrait être encore la majorité dans des CHSLD. Est-ce qu'on est capable de savoir si les gens sont testés? Je ne sais pas si vous le savez, vous, Mark Hamilton, mais j'aimerais ça qu'on nous le confirme. Puis ce que je lis là, de mes auditeurs, c'est pas ça.
Ben effectivement, c'est une bonne question que vous dites là. Oui, effectivement, faut vraiment focusser pour protéger les personnes les plus à risque, entre autres les gens dans les CHSLD. Tous les gens qui gravitent de près ou de loin dans les CHSLD devraient être contrôlés d'une manière très régulière parce qu'il y a probablement des personnes asymptomatiques qui travaillent dans le CHSLD.
Mais logiquement, il y en a autant que dans la population, là.
Exactement. Puis ces gens-là, comme on le disait, savent même pas qu'ils sont porteurs de la maladie. Et comme vous dites, le dommage collatéral est plus fort. Donc, chez les personnes âgées. Donc, oui, effectivement, si vous voulez un focus, il faudrait créer une routine de dépistage chez les gens qui ont affaire à travailler dans les CHSLD, que ce soit des gens qui sont là tous les jours, que ce soit des sous-traitants, à moins que les gens, quand ils se présentent dans les CHSLD, aient des bonnes mesures de protection personnelle pour éviter qu'ils amènent le virus dans un endroit où est-ce qu'on veut pas l'avoir. Mais effectivement, il devrait y avoir une routine. J'ai pas cette information-là à savoir est-ce que c'est en vigueur. C'est pas vraiment publié, mais il reste que vous avez entièrement raison. Il faut focusser sur nos points faibles, nos maillons faibles, qui sont les gens les plus à risque dans les CHSLD ou les personnes de 70 ans et plus. C'est ces gens-là qui gravitent autour de ces personnes à risque-là. Faut les surveiller davantage. Vous avez entièrement raison.
Parce que là, j'ai bien entendu le docteur Arruda qui disait qu'il était préoccupé par le faible volume de tests, là, qui donc, on l'a vu, là, la moitié de l'objectif de 14 000, là, si on se fie aux résultats de lundi. Donc là, il nous a dit, la dernière fois qu'il a parlé hier, qu'il réfléchit à une nouvelle stratégie pour convaincre la population, pour convaincre les gens qui nous écoutent d'aller se faire tester. Tout le monde, là, ça l'inquiète apparemment. Là. Il essaye de réfléchir à ça. Moi, je pense que l'urgence, c'est de tester les travailleurs en CHSLD.
Moi, je pense que le pouvoir qu'ils ont, c'est d'obliger les gens dans les CHSLD à se faire tester. Je pense qu'il y a le pouvoir de recommander fortement, voire obliger, de dire parce que tu travailles dans un endroit à risque, tu te dois d'embarquer dans une routine de testage. Mais c'est sûr que quelles seront ces mesures incitatives pour que le monsieur tout le monde décide d'y aller?
Mais est-ce que c'est important que monsieur tout le monde y aille? Et madame d'ailleurs aussi, monsieur, madame tout le monde. Est-ce que c'est important qu'on y aille tous? Moi, je vous avoue, là, j'y ai pensé à aller me faire tester. Je me suis dit, mais aller dans un centre de dépistage, je vais aller voir comment ça marche de un. Puis de deux, ben, en même temps, j'aurai un résultat certain. Puis là, je me suis dit, oui, mais au point où on en est, à quoi ça va me servir? Moi, je suis pas mal comme tout le monde là, dans les réflexions. Là. Je me dis, à quoi ça va me servir? Avez-vous une réponse pour me convaincre?
Mais la réponse, c'est que le virus est encore présent. La preuve, c'est que même si on dit que 90 % des gens qui en décèdent présentement, c'est des gens dans les CHSLD.
Exact.
Le virus est encore présent. On le sait que le virus, si on veut dire combien de jours ça va prendre pour pas qu'il y ait aucun cas positif pour dire que le virus est disparu de notre environnement, ça prend au moins 28 jours. Quand on va dire que la quarantaine va être finie, là, ils disent 40 jours, mais scientifiquement, là, si on est 28 jours sans test positif, on s'entend pas des décès, là. Des tests positifs pendant 28 jours, on pourra dire OK, c'est derrière nous. Mais tant qu'il y aura des centaines de personnes positives à tous les jours, ça, c'est des gens qui ont été diagnostiqués positifs. Ça, c'est à part ceux qui n'ont pas été diagnostiqués positifs puis qui peuvent transmettre la maladie. Donc, pour pouvoir diminuer ce nombre-là à zéro, il faut contrôler la maladie, il faut contrôler le virus. Et le seul moyen de le contrôler présentement avec les moyens qu'on a, parce qu'on n'a pas de vaccination, c'est de tester pour identifier puis de mettre de côté le plus possible les gens qui sont les plus à risque. Donc,
mais on les connaît, M. Hamilton. On les connaît, ben, les gens les plus à risque. On sait où ils sont.
Mais si ces gens-là seraient pas... C'est parce qu'ils sont à risque qu'ils attrapent la maladie. Mais s'ils l'attrapent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est porteur de la maladie.
Exact.
Si quelqu'un qui travaille dans un CHSLD transmet ça à une personne âgée, cette personne-là l'a attrapé de quelqu'un. Donc, elle l'a peut-être attrapé d'un voisin, d'un ami, d'un parent qui ne sait pas s'il l'a. Donc, si on veut faire l'anamnèse pour couper le point faible, oui, je comprends qu'on peut mettre beaucoup d'énergie dans ces secteurs-là, mais si on veut éliminer le virus, il faut y aller à la base, qui est de trouver qui le transmet. Mmh. Et le moyen de trouver qui le transmet, c'est le seul moyen qu'on a, c'est de l'identifier par des tests et de le mettre de côté et de limiter la propagation.
Mais un Québécois dans la quarantaine qui n'a pas aucune raison d'aller en CHSLD, de s'approcher d'un travailleur de CHSLD, là. Quelqu'un qui... Il y en a, là. Je veux dire, vous allez me dire, on est tous à 6 degrés de séparation de quelqu'un qui peut-être connaît une personne âgée en CHSLD ou un préposé aux bénéficiaires, mais il y en a des Québécois qui n'ont aucun lien avec... Ça serait quoi pour cette personne? Il y en a beaucoup, là. Je pense que c'est probablement une majorité, là.
C'est sûr que ça dépend toujours de qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes quelqu'un qui est casanier, quelqu'un qui ne va pas plus loin que sa propre famille...
Non, mais même au-delà de ça, je veux dire, même au-delà, pas besoin de rester chez soi ermite, là. Je pense qu'il y a bien des gens. Moi, sincèrement, je Je pense pas être à risque de donner ça à quelqu'un, là, même si j'étais asymptomatique. Là.
Mais allons-y. Ben encore là.
Je questionne la priorité. Comprenez-vous, Marc Hamilton? Puis moi, je suis pas microbiologiste, c'est vous qui l'êtes, là, mais puis je veux bien vous croire, puis je crois bien le docteur Arruda aussi, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une priorité, puis il y a une logique. Puis tous les jours, ils nous en ont appris beaucoup de choses, puis on n'est pas cave, on sait lire. Donc, quand on regarde ça, on se dit, OK, la priorité, je reviens là-dessus, ça devrait être les travailleurs et toute personne qui approche un CHSLD. Fait que là, c'est eux vraiment qui devraient être la priorité pour contrôler le nombre de cas puis le nombre de décès. Après, qu'on veuille tester la population, oui, dans un... ça serait comme le point numéro 2, mais dans la priorité prioritaire numéro 1, il me semble que c'est toute personne en CHSLD. Or, ça continue de se promener d'un à l'autre. En fait, c'est fou. On nous a dit, dorénavant, on va faire autrement. Ben, dorénavant, on fait comme d'habitude. C'est ça, moi, qui me sidère. En CHSLD, les gens continuent d'aller de l'un à l'autre, les travailleurs. C'est pas testé. Après ça, on va dire, comment se fait que le monde va pas se faire tester? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit montrer l'exemple.
Ben, je pense que votre exemple est juste. Oui, effectivement, de mettre beaucoup d'accent pour contrôler les gens les plus à risque de transmettre la maladie, donc les CHSLD, les personnes âgées, des maisons de retraite, oui. Mais la bonne nouvelle, puis je pense que ça rejoint...
Il y en a-tu une? Allez-y. C'est quoi la bonne nouvelle?
La bonne nouvelle qui fait en sorte que ce que vous dites, ça a bien du sens, c'est que pour ça qu'on est déconfiné beaucoup présentement.
Ouais, c'est ça.
C'est que le ministre a pris confiance de dire, écoutez, après 4 mois de qu'on se serrer la ceinture, faites attention à ci, faites attention, ça, on déconfine, parce que ça, on s'est rendu compte que le virus était beaucoup plus à risque pour un certain groupe de personnes cibles, les gens qui ont des gros facteurs de comorbidité ou les personnes âgées, les jeunes qui ont des systèmes immunitaires beaucoup plus faibles. On s'est rendu compte que les jeunes étaient plus à risque et les personnes entre 20 et 40 ans en bonne santé et actives sont moins à risque. Je dis pas qu'ils n'auront pas de symptômes, mais sont, quand on termine en nombre de décès, c'est pas les personnels cibles. Donc, c'est ça qui fait que présentement, on a un break qui fait qu'il a dit, bon, on va commencer à ouvrir, on va ouvrir les restaurants, les terrasses, les sports intérieurs, extérieurs. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle qui fait que on a pris confiance en guillemets à nous mêmes, à garder nos distanciations et à la nécessité de moins tester en guillemets parce qu'on déconfine.
Ouais.
Mais le fait qu'on déconfine en tant que tel, faut dire que le virus risque, au moment où on se parle, de voyager un petit peu plus qu'avant parce qu'il y a un mix supplémentaire.
Marc Hamilton, vous restez avec nous, bien sûr. On a tellement de fun dans cette discussion que j'ai pas vu l'heure. Là, il faut absolument qu'on aille à la pause. On revient vite avec les commentaires de nos auditeurs. Ben, je viens encore de vérifier parce qu'il y a des gens qui me disent, ben oui, mais il y a moins de cliniques mobiles à Montréal, entre autres. Puis là, ça dépend des régions, effectivement. Mais à Montréal, on l'a su. Manon me dit, elles vont être démantelées 7 semaines. Ça doit pas aider. Les cliniques demandent qu'on ait des symptômes. Donc, pas de symptômes, pas de tests. C'est donc difficile de savoir où aller se faire tester. Ou même si on s'y rend, est-ce qu'on va être accepté? Encore un cas de discordance, dit Manon, entre ce que la santé publique et le premier ministre dit. Et ce qui se passe sur le terrain, on est un peu mêlés. Et c'est effectivement ça, il y a moins de disponibilité pour se faire tester. On a vu qu'il y avait eu des autobus là, d'ASTM qui avaient été affrétés en clinique mobile. Puis là, ben, finalement, on a décidé d'arrêter ça, même si on disait que le bilan était positif, là, c'est-à-dire que les gens les avaient utilisés. En même temps, il y en a beaucoup qui disent, ben oui, mais on savait pas où ils étaient. Fait qu'on sent là, qu'il y a comme un manque de communication. Puis encore là, j'ai l'impression que les CIUSSS, ça aide pas personne. On a Anne-Marie qui est avec nous. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Vous êtes allée vous faire tester.
Oui, je suis allée. Puis moi, écoutez, moi, je trépignais là, pendant la pause là, parce que j'avais tellement le goût de participer à votre conversation par rapport à toutes sortes de sujets, même le sujet de l'heure d'avant. Mais moi, je suis allée me faire tester. J'ai commencé à avoir des symptômes peut-être le 16 mars autour d'eux. Un petit mal de gorge, bon, s'ajoute le gros mal de tête, s'ajoute la fièvre, s'ajoute des douleurs musculaires, plein de symptômes un après l'autre. Puis j'ai essayé de me faire tester. J'ai appelé le 1-877, là. Je l'ai appelé, on m'a dit, on m'a demandé si j'avais voyagé. Non, c'était les gens qui revenaient de voyage ou qui avaient été en contact avec des gens qui revenaient de voyage. Sauf que moi, j'anime dans un groupe d'entraide et puis j'ai dit, ben moi, le 11 mars, j'étais là, puis il y en a peut-être des gens qui revenaient de voyage. Je sais pas, moi, là.
Mais c'est vrai qu'en mars, là, la décharge du docteur Arruda et de la santé publique, c'est vrai qu'en mars, on n'était pas là. On testait juste les gens. Êtes-vous retourné il n'y a pas longtemps?
Ben, moi, j'ai été 6 semaines avec ces symptômes-là, à pas pouvoir sortir et à pas aller prendre une marche parce qu'on pouvait pas, si on avait des symptômes, qu'on pouvait avoir la COVID.
Ouais.
Donc, j'ai rappelé, on m'a envoyé en clinique, d'évaluation médicale. Puis, on était à la période où on testait seulement les premiers répondants, les gens dans les CHSLD, les patients et les travailleurs. Donc, j'étais pas dans la ligne là, qu'on pouvait tester. Fait qu'on m'a dit probablement que c'est la COVID. On va vous traiter comme si vous aviez la COVID, donc vous désinfectez tout ça en revenant chez vous, votre linge en laveuse, désinfectez votre auto et tout, vous restez à la maison, enfermé, quarantaine, le plus possible dans votre chambre, avec votre salle de bain, etc., toujours pas le nez dehors, et puis c'est ça. Après ça, quand j'ai entendu que le 4 mai, à partir du 4 mai, on pouvait aller se faire tester si on avait des symptômes, j'avais été 2 semaines avec moins de symptômes, je m'étais dit, bon, peut-être que ça finit par passer, même si c'était ça, mais non, là, ça recommençait un petit peu, j'ai dit, non, j'attendrai pas, là, j'ai appelé le 2 mai, le samedi, pour savoir comment est-ce que je pouvais être certaine d'avoir une place de 4, puis le monsieur m'a dit, ben, j'ai une place de demain, moi, je peux vous envoyer demain, parfait, le 3, je vais aller passer un test. Ça s'est super bien passé. Et puis, j'ai eu les résultats en moins de 24 heures. Et c'était négatif. Sauf que ce qu'on m'a dit, c'est que ça ne veut pas dire que toutes les semaines, vous avez eu les symptômes, vous n'aviez pas la COVID. Ça ne veut pas dire ça. Parce que là, après tant de temps, ça se peut que vous testiez négatif. Puis, en plus, il y a 80 % des cas qui sont, 20 % des tests qui sont de faux négatifs. Mm-hmm. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que pour vous, ce qui serait intéressant de faire, ce serait de faire un test sérologique ouais. pour voir si j'ai limité.
L'avez-vous fait? Ça,
ben non, parce que ce que vous disiez tantôt, justement, là, vous aviez reçu un courriel qui disait que sont où les cliniques? Moi, à un moment donné, j'ai entendu une auto passer là avec un message là, qui se disait, on n'entendait pas très bien le message parce que c'était dans les rues un petit peu plus loin, mais c'était une clinique mobile qui était presque à 2 coins de rue de chez moi. Puis j'ai vu aux nouvelles le soir, mais j'ai dit, je savais même pas qu'il y avait une clinique là. Moi, j'en aurais envoyé des gens passer le test. Mais s'il y avait un tableau avec tous les points de presse, avec toutes les nouvelles, on écoute les nouvelles en continu, ça devient redondant. Mais si on mettait les tableaux, bon, aujourd'hui, c'est là. Parce que vous vous souvenez,
mais ça reste des tests nasaux, là. C'est pas le test sérologique. D'après ce que je sais, le test sérologique, il faut payer 200$ puis il faut aller au privé.
Oui, mais moi, je parle des tests, justement, des tests nasaux, là, M. Hamilton parlait tantôt, ce qu'il disait, c'est parce que moi, ma soeur a une voisine qui s'est retrouvée dans un party, elle, là, c'était un souper de fête à 35 personnes, il y a 3 semaines, le samedi soir, faisait frais, fait que finalement, ils se sont retrouvés en dedans, à l'intérieur, les 35 personnes, puis elle est revenue avec une coupe de cheveux le lendemain, puis on est en Montérégie, puis... ben, il y avait une coiffeuse là-dedans, fait qu'elle nous a toutes coupé les cheveux. Il y avait pas de distanciation, pas de masque, pas rien, là. Mais ce que M. Hamilton disait tantôt, moi, je comprends, si quelqu'un travaille dans un CHSLD, on dit que c'est des gens plus vulnérables, mais la personne qui est en CHSLD, vous avez eu quelqu'un cette semaine, une infirmière qui a dit, « Oh, moi, je commence à relâcher. » Ben, si la personne qui travaille là est dans un rassemblement, là,
Mais c'est sûr, c'est pour ça qu'il faut les faire tester, Anne-Marie, effectivement. Ben, oui, mais vous, allez-vous payer 200$, par exemple, parce que vous le payeriez, c'est 200$ pour le test de sang?
Ben, moi, j'avais l'impression que ça allait devenir un test qu'on allait offrir à tout le monde, comme dans tous les pays.
Merci, Anne-Marie. Avant la pause, je veux entendre Marc Hamilton là-dessus. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant, votre commentaire. Marc, là, jusqu'à maintenant, là, au privé, le gouvernement, il va pas payer 200$ pour tout le monde, là.
Ben non, puis ce que je trouve ridicule, c'est que le gouvernement, pourquoi qu'il n'offre pas ce test-là? Ils ont les plateformes pour le faire, les hôpitaux, tous les hôpitaux pourraient sensiblement le faire, parce que c'est pas du rocket science de faire ces tests sérologiques-là. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que on se limite qu'à faire des tests par PCR, qu'on commence pas à faire des tests sérologiques gratuits à la population? Ce serait, pour moi, un incontournable. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser. Pourquoi est-ce que ce test-là ne semble pas être disponible à la population d'une manière gratuite? Ça,
c'est une question de coût, non?
Ben, honnêtement, le test sérologique devrait coûter moins cher que le test RT-PCR parce que ça prend beaucoup moins de personnel. C'est des appareils qui sont souvent robotisés et les coûts de réactifs, à mon avis, c'est pas ça qui va faire la différence en termes de prix.
Mais vous savez, si vous faites ça dans un hôpital en ce moment, vous allez à l'hôpital le matin, 7h, faites la queue, vous allez avoir votre test de sang pendant 7 jours, on fait quoi?
Ça peut être très vite. Écoutez, ça dépend toujours de la capacité analytique. Mais dans le cas qu'on prenait le RT-PCR, la dame disait que j'ai reçu mes résultats en dedans de 24 heures. Le test sérologique, c'est la même chose. Si on est capable de faire 15 000 tests par jour d'RT-PCR, on devrait être en mesure de faire 15 000 tests par jour de tests sérologiques et de recevoir nos résultats dans les 24 heures.
Fait que vous pensez qu'on est rendu là à faire des tests pour connaître l'immunité des gens?
Absolument. Et ça, je le prône, ça fait plusieurs mois maintenant que je dis, pourquoi juste se limiter qu'au dépistage? Pourquoi pas recenser ceux qui l'ont attrapé, qui pourraient nous donner une bonne aussi évaluation d'immunité collective qui s'est créée dans la population pour les gens, entre autres, qui ne savent pas qu'ils l'ont eu. Moi, je pense que si on veut créer un pourcentage d'immunité collective en termes d'épidémiologie, c'est de tester pour trouver qui l'ont attrapé. Et le seul moyen de le savoir, c'est de faire des tests sérologiques.
Merci beaucoup, Mark Hamilton. C'est très clair. Merci bien. Mark Hamilton est microbiologiste. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On va vous informer là, sur la conférence de presse de Justin Trudeau tout de suite après la pause. On aura également l'épidémiologiste, la docteure Nima Machouf, qui va poursuivre sur le sujet. Là, on va parler d'immunoglobulines, entre autres, d'immunité communautaire, de l'importance, de la différence entre tests donc nasal et tests sanguins. Aussi, puis parce que la grande question, je sais que vous vous la posez, vous pensez avoir eu des symptômes, même moi je pense ça, je me dis que non, je l'ai peut-être eu, je suis peut-être immunisée. En même temps, sur l'immunité, il n'y a personne qui nous assure de rien. Même si vous allez au privé en ce moment, que vous payez le 199 $, on va vous dire, ça ne veut pas dire que vous êtes immunisée. Parce que ils peuvent pas le dire, c'est une directive de ce que je comprends de la santé publique de pas s'avancer à vous donner ce genre de confirmation. Voyez-vous comment ça marche? Bref, on aimerait bien savoir pareil hein, si on est immunisé ou pas. 514-790-9850 puis vous faites le 1-866 si vous êtes à l'extérieur de Montréal, 1-866-790-9850. Valérie Leboeuf de la salle de nouvelles de Cogeco a suivi le point de presse de Justin Trudeau. Mm-hmm. Bonjour Valérie.
Bonjour Isabelle. Évidemment, Justin Trudeau a réagi au fait que le Canada n'a pas tenu de siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Justin Trudeau s'est dit évidemment déçu et on lui a demandé mais comment se fait-il qu'on n'a pas réussi. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est écoutez, on est entré dans la course 5 ans après la Norvège et l'Irlande. C'est ce qui explique pourquoi nous, on n'a pas réussi à obtenir ce siège-là. Bref, ça a été sa réaction à ce sujet-là. Il a été question aussi de cette application mobile de traçage volontaire en rapport avec la COVID-19 qui sera testée bientôt en Ontario. Doug Ford va expliquer plus en détail comment ça va fonctionner, mais Justin Trudeau avait quand même quelques explications.
Si vous recevez un résultat positif à un test de la COVID-19, un professionnel de la santé va vous aider à télécharger votre statut de manière anonyme sur un réseau national. Les autres usagers qui auront l'application et qui auront été près de vous seront alors alertés qu'ils ont été en proximité avec quelqu'un qui a testé positif. Cette alerte va les encourager à contacter leurs autorités sanitaires locales.
Justin Trudeau qui a assuré Isabelle que la vie privée des Canadiens sera protégée, qu'on ne va pas dévoiler de renseignements personnels ou encore votre localisation avec ce type d'application.
À moins qu'il y ait un fonctionnaire qui ait envie d'avoir des cartes cadeaux, tu sais.
Ça se peut. On a déjà vu ça dans le passé.
Oui, on a déjà des noms.
Oui, et il a parlé aussi de racisme systémique, en fait, parce qu'il y aura rencontre des premiers ministres provinciaux avec Justin Trudeau aujourd'hui. Et il a dit qu'il était très déçu que le Bloc québécois ne reconnaisse pas, finalement, que le racisme systémique existe. On lui a posé la question à propos de François Legault, qui ne le reconnaît pas non plus. Voici sa réponse.
Je pense que à travers le pays, différentes personnes sont à différents niveaux de reconnaître le problème. Mais j'espère que les conversations qu'on est en train d'avoir, les voix fortes qui s'élèvent pour souligner des problèmes et ceux qui veulent travailler ensemble pour créer des solutions nous donnent beaucoup de confort qu'on est en train d'aller dans la bonne direction et on espère que tout le monde va commencer à reconnaître le travail qu'il y a devant nous et s'y mettre à la tâche.
Alors, Justin Trudeau, qui n'a pas condamné aussi les propos du chef du NPD, Jack Meeting, qui a traité un élu bloquiste de raciste. Donc, il n'a rien dit à ce sujet.
Mais non. Merci beaucoup, Valérie Leboeuf. Merci bien. On poursuit sur les tests. Je vous demande si vous trouvez que ça vaut la peine de se faire tester pour le coronavirus. Sachant que, en fait, la grande question qui nous préoccupe, c'est est-ce qu'on est immunisé? Savoir qu'on est asymptomatique, c'est quand même intéressant. Aussi, il y a Jacinthe qui est allée, qui est une résidente de Montréal, qui est allée se faire tester. Bonjour, Jacinthe.
Bonjour, Isabelle.
Racontez-moi un peu votre expérience.
Ben, en fait, à la maison, on a tellement tous été malades, juste un petit peu avant le premier cas, que puis nous, on suivait la situation en Chine depuis la fin décembre. Là, fait que moi, j'avais déjà une impression de « tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est ça, mais bon. » Et je me suis qualifiée pour les tests dans le nez, les tests pour le virus, sauf que l'attente a été tellement longue à partir de ma confirmation du 1er avril que finalement j'ai jamais reçu d'appel. pour aller passer le test, puis là, j'avais plus de symptômes. Alors, tu sais, tant pis. Fait, dès que j'ai entendu parler dans la presse, il y a comme 2-3 semaines que le test sérologique était arrivé, je me suis comme précipitée à la clinique privée, prise de sang. Je voulais en avoir le cœur net. J'aurais aimé ça me faire dire que j'ai des anticorps, même si je sais que on ne sait pas encore si on peut l'avoir une autre fois ou tout ça. J'avais une espèce de, bon, ben, je veux dire, s'il y a des multinationales en train de travailler sur des vaccins, c'est parce qu'il y a quand même un intérêt pour les anticorps.
Ouais.
J'aimerais ça, savoir que je les ai. Tu sais, ça rassurerait ma petite anxiété, puis celle de l'entourage. Puis, ben, voilà, comme moi, j'ai été malade, mes 3 filles ont été malades, les 2 gardiennes qui viennent à la maison régulièrement ont été malades, leur mari aussi. Je trouvais que c'était un peu intense comme grippe, mais bon, ça a l'air que c'est ça parce que mon test est sorti négatif à mon grand étonnement.
Donc, le test sérologique, Jacinthe, vous avez fait un test de sang, donc?
Oui, ma prise de sang, $199.
190 $
Ah, oh ben, je sais plus si c'est 10 ou 19. Là, je...
Jacinthe, est-ce qu'on vous a dit, on vous a vraiment dit, le test révèle que vous avez 0 anticorps? Hein, parce que j'ai lu une directive à l'effet que parfois, le test est positif, c'est-à-dire, oui, il y a une certaine immunité, mais dans les laboratoires privés, il n'y a personne qui veut trop s'engager contre la directive du gouvernement qui est de dire, on ne veut pas non plus, on ne veut pas donner de tests positifs. On ne veut pas le dire aux gens. On ne peut pas vous garantir une immunité. Là. C'est ce que j'ai compris.
Ah, ouais. Écoute, c'est un excellent point, en ce sens que tu sais, moi, en plus, j'avais fait des gageures là, en riant, là, mais tu sais, je disais, non, je suis sûre que c'est positif. Tout ça. Fait que quand ils ont laissé ils ont envoyé un courriel pour dire que c'était négatif, générique, puis après ça, ils ont laissé un message téléphonique. Mais j'étais tellement surprise et déçue que j'ai juste comme classé le dossier. Mais comme ça fait 2 semaines, je vais sûrement rappeler.
Mais moi, je rappellerai juste pour savoir, est-ce que j'étais positive, mais finalement, vous pouvez pas vraiment me le dire parce que vous êtes pas capable de me donner une immunité ou peut-être
oui,
c'était vraiment négatif.
Positive.
Là.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas demandé, OK, c'est quoi mon taux? Est-ce que c'est 0? T'as été une excellente question.
Mais tu sais, tant qu'à payer.
Ben non, mais tout à fait.
Ouais. OK, ben merci Jacinthe, merci bien pour ce témoignage. Et vous, ça c'est intéressant, quelqu'un donc qui a payé pour aller, puis finalement ça n'a pas appris grand-chose. Ben elle a appris qu'elle était négative, mais là c'est ça encore, est-ce que c'est un vrai négatif? C'est toujours ça qui est un peu litigieux avec les tests, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Avec nous, la docteure Nima Machouf, épidémiologiste à la clinique du quartier latin. Bonjour docteure Machouf.
Bonjour Isabelle, comment allez-vous?
Très bien, on a dit beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'avais Marc Hamilton, microbiologiste, qui lui prône les tests sérologiques, donc les tests sanguins pour tout le monde, parce que ça serait, selon lui, puis je pense qu'on peut être d'accord, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, ça serait la meilleure façon de savoir si on est vraiment, si on a des anticorps et si on a donc une certaine immunité. Vous en pensez quoi, vous, docteur Machouf?
Collectivement, pour le gouvernement, avoir ces données-là est extrêmement important et j'imagine à un moment donné quand le test sérologique sera accessible financièrement, parce que à 190 ou 19 $ le test, on parle pas d'un test accessible à grand public. Alors, et le gouvernement ne peut pas se payer ça non plus. Là, il faut négocier avec les compagnies. Les pharma et les biotech, les compagnies de biotechnologie pour qu'ils offrent cette technologie à un prix raisonnable pour que ce soit utilisable à grande échelle. Alors, le gouvernement a besoin de cette information. Est-ce que nous, on a besoin de cette information? Si ça peut diminuer l'anxiété, peut-être. Si on veut voyager ou on veut travailler dans un milieu où les contacts, les barrières, mettre les barrières est pas très facile et tout ça, ça peut être un moyen de dire, ah ben, mais on est immunisé, ça veut dire qu'on a déjà contracté la maladie, ça veut dire que probablement on la contractera pas. La dame qui a parlé juste avant a bien raison. Ça veut pas dire que on ne la contractera pas. Cependant, s'il y a tant d'études sur les vaccins, c'est parce qu'on a une certaine garantie qu'on développe l'immunité. Et espérons-le, on ne l'attrapera pas une deuxième fois. Sur les 7 millions de personnes dans le monde qui ont jusque-là, sur les 8 millions en fait, qui jusqu'à aujourd'hui ont attrapé la COVID, il y a très, très peu de cas de réinfection qui ont été documentés. Donc, on peut vraisemblablement croire qu'on ne va pas se réinfecter.
Mmh. Qu'est-ce que dépistent ces tests sérologiques, Dr Machouf?
Ces tests, ça dépend... chaque test peut avoir peut cibler des éléments différents, mais le test dont on parle, je pense qu'il développe, qu'il détecte les anticorps que notre corps produit. Une fois que notre corps a été en contact avec un virus, il se défend. Notre système immunitaire produit des soldats pour qu'on se défende contre les virus et on produit un certain nombre de particules. On a des IgM, des IgG, ça c'est les différents rangs de soldats là qui vont être activés pour lutter contre le virus.
Et les immunoglobulines, c'est bien ça?
Immunoglobulines, oui, exactement. Ouais. Les immunoglobulines G ou M qui les détectent et chacun arrive à un moment de l'infection. Donc, tout dépendamment de quel genre, premièrement, est-ce qu'il détecte des immunoglobulines ou pas, ça veut dire qu'on a été en contact, s'il en détecte. Et tout dépendamment de quelle immunoglobuline ils détectent, ils peuvent nous dire si actuellement on est en infection active ou on a passé l'infection, on a vécu une infection dans le passé.
Ouais, et on parle alors de mémoire immunitaire, ce qui ferait que c'est comme si notre organisme se souvient qu'on a des anticorps et qu'il les reproduit rapidement si jamais on est en contact à nouveau s'il y a réinfection. C'est ça. Ça, c'est
exactement
intéressant, cette notion de mémoire.
Ouais. Ouais, c'est le principe. On a déjà ouvert un front contre ce virus et la prochaine fois, si jamais il se présente, on sait comment agir.
Ouais.
On l'a déjà développé l'immunoglobuline pour nous défendre, la matière pour nous défendre, on l'a déjà développée. Et pour le gouvernement, c'est un élément qui est très important à connaître. Et Dr Arruda l'a déjà dit que quand le test sera disponible, ils vont organiser des échantillonnages de la population pour tester, pour voir finalement combien de personnes ont été infectées par la COVID, parce qu'on ne le sait pas actuellement. Il y a beaucoup, ce qu'on voit là, les 50 et quelques mille, les 54 000 Québécois et Québécoises qui ont eu la COVID, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Beaucoup plus de gens l'ont attrapé. Et sachant que 30 à 50 des gens ne développent pas de symptômes, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait tester pour qu'on les diagnostique.
Ouais. Restez avec nous, Dr Machouf. On revient tout de suite après cette pause. Diane nous appelle. Bonjour. Vous avez essayé de vous faire tester, je pense, Diane?
Oui, plusieurs reprises. Je travaille de la santé et j'ai aidé en CHSLD. Et la semaine passée, mon conjoint avait des symptômes. Alors, je voulais me faire tester. Et j'ai appelé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, si vous n'avez pas de symptômes, on ne vous teste pas.
Travaillez-vous en CHSLD encore?
Je vais faire du bénévolat.
Ouais, là, c'est peut-être pas une bonne idée, là, par exemple, mais ça confirme ce que vous me dites, Diane, ce que Francis m'écrit. Il dit que sa mère et sa sœur sont préposés aux bénéficiaires. Les CHSLD ont tellement besoin de monde qu'il me dit, là, qu'ils font même plus de tests COVID-19. Même si vous l'avez contracté, si vous avez toujours des symptômes, les préposés vont continuer à travailler malgré le fait que plusieurs de ces préposés testent positifs. Je peux pas croire qu'il y a du monde en ce moment, aujourd'hui, en CHSLD, comme préposé aux bénéficiaires qui sont positifs COVID-19, qu'on fait travailler. Je peux pas croire ça.
Je peux vous dire, j'aurais pas été si mon conjoint avait sorti positif. J'ai été se faire tester, lui, vendredi passé, et le résultat est revenu négatif. Et dans deux jours, il n'avait plus de symptômes. Parce que sans ça, j'aurais pas été en CHSLD. Mm-hmm. Mais je peux vous dire que oui, il y en a qui ont retourné travailler, même s'il y avait des symptômes, parce qu'il y a un manque de personnel.
Oh mon Dieu. Merci, Diane. Merci beaucoup. Docteur Nima Machouf est avec nous, épidémiologiste. Vous croyez ça, Docteur Machouf, qu'il y a des gens qui, en ce moment, ne sont pas testés, préposés aux bénéficiaires ou autres travailleurs de CHSLD, qu'on sait là, qu'ils sont positifs COVID, puis qu'on emploie quand même, parce qu'on n'a juste personne pour faire le travail?
Oui. Il y a deux choses qu'on doit séparer. Premièrement, des personnes qui continuent à être positifs une fois qu'ils ont eu le COVID, qui ont développé le COVID, qui ont eu l'épisode de la maladie est passé, mais ils n'arrivent pas à devenir négatifs. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont infectieux. Et on ne comprend pas encore c'est quoi le phénomène, pourquoi ça continue à être comme ça. Le test, il détecte des débris de virus. Donc, lui, il sort positif, mais la personne n'a pas de symptômes. Donc, il y a même des médecins dans des structures qui commencent à penser on va baser notre jugement sur la disparition des symptômes. Donc, ça, c'est une chose.
Ouais.
Mais deuxièmement, si quelqu'un est suspecté avec des symptômes ou avec des gens avec qui la personne demeure qui ont des symptômes de COVID, c'est étonnant qu'il ne soit pas testé.
Oui, puis ce que je comprends, c'est que ça prend un test de sang à ce moment-là. Si vous me dites, puis vous me confirmez, il y a trop d'inconnus avec le test nasal, oui. Le test sanguin semble être celui qui est le plus fiable.
Oui et non. Le test sanguin, il est fiable aussi, mais le test nasal aussi, il peut être fiable. Il détecte le virus. Donc, si on l'a activement, normalement, le test nasal, il devrait le détecter.
Ce que je vois aussi, docteur Machaud, c'est beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent, moi, je suis sûre, je l'ai eu. Pourtant, quand je me suis fait tester avec le test nasal, le RT-PCR, j'ai testé négatif. Est-ce que c'est possible que ça soit tous vraiment une grosse grippe, là, que certains là, qui sont convaincus d'avoir eu la COVID, au lieu, ils ont eu la H1N1 ou un autre type de grippe?
Oui, c'est très possible parce que la COVID, elle est très difficile à détecter dans le sens où elle n'a pas de symptômes spécifiques. À part le seul symptôme spécifique à la COVID qu'on trouve à travers la littérature, quand on regarde toutes les descriptions des cohortes de personnes qui ont été infectées, c'est la perte du goût et de l'odorat. Ça, c'est spécifique au COVID, mais c'est pas tout le monde qui la développe non plus. C'est pas tout le monde parmi ceux qui développent des symptômes qui la développent. Alors, c'est très difficile à dire qu'est-ce qu'on a eu.
Ouais.
Les symptômes de la COVID sont très, très similaires aux symptômes d'une influenza. Ouais. À chaque année, on en a des influenza, puis il y en a plein. Nos hôpitaux sont pleins d'influenza pendant la saison. Donc, est-ce que c'était l'influenza ou c'était la COVID? On ne sait pas. C'est très difficile à déterminer. Mais avec un test de sérologie, c'est vrai. On pourrait le savoir.
On termine, il nous reste une minute. Que recommandez-vous aux gens là, qui nous écoutent?
Pour l'instant, on est en période de déconfinement. C'est important de ne pas baisser la garde. Pour l'instant, ça va bien. Il faut vraiment qu'on réussisse à éliminer le virus le plus possible. Donc, déconfinement, d'accord, mais faisons-le de manière très prudente.
Mais vous avez vu, là, l'Inde, la Chine, ça vous inquiète, vous, docteur Machaud?
Oui, ça m'inquiète. Oui, ça m'inquiète parce que je veux surtout pas que la COVID revienne pendant notre période d'influenza non plus, où ça va être très difficile à gérer à ce moment-là. Donc, le masque est un atout. Je sais pas pourquoi le gouvernement hésite à le rendre obligatoire. Aujourd'hui, Toronto a dit qu'il allait le rendre obligatoire dans le transport en commun. On a besoin du masque pour pouvoir nous donner plus de confiance dans le déconfinement, tout en brisant la chaîne de transmission.
Merci beaucoup, Dr. Nima Machaud, épidémiologiste. Bonne journée, tout le monde. On se retrouve demain.